Merci d'être à l'écoute de Ma France et de celle de notre invité, l'écrivain Didier Van Cauwelaert, qui raconte sa mère dans un hommage posthume au fond dans son nouveau roman Une vraie mère ou presque. Didier, j'avais envie de convoquer Morane pour deux raisons. Sa belgitude, pleine de force et de fantaisie.
Bonjour à Morane.
Oui. Et son talent
se trouve,
hors d'ordre.
Elle nous manque tellement, mais moi je l'écoute tout le temps. Mais
c'est vrai ?
En venant, je l'écoutais encore.
C'est pas vrai. Ouais. Ouais, bah c'est l'une des plus grandes voix francophones. Et puis on est dans la vie avec elle. Dans la vie, et l'esprit de cette chanson s'inscrit en revanche alors dans la droite ligne d'un de vos personnages, mais pas tout à fait dans le caractère qu'infusait votre maman. Elle était moins fantaisiste, moins explosive que les mamas que chante ici Morane.
Alors d'abord c'est un roman, c'est-à-dire que pour vraiment parler de ma mère, j'avais besoin de ce décalage romanesque. J'ai pas eu ce besoin-là quand mon père est mort, quand j'ai publié Le Père adopté, sa vie était tellement romanesque, il était tellement expansif, bouillonnant, extraverti, et sa vie était tellement un tissu de roman qu'il y a juste eu à le raconter. Ma mère était un peu... je dirais qu'elle brillait dans l'ombre de mon père. C'est-à-dire qu'elle était, lui avait un, même par rapport à ma vocation précoce de raconteur d'histoire et tout ça, lui était un supporter total, démesuré, et elle avait besoin d'endosser le rôle de...
De la mère fouettarde, un peu.
le contre-feu, le garde-fou, la doucheuse d'enthousiasme, style, faut que t'aies un vrai métier avant de penser à vivre de ta plume. Donc évidemment, elle avait le mauvais rôle. Et puis, dans leur passion qui était parfois orageuse, volcanique, je prenais toujours le parti de mon père. Il y a un certain nombre d'injustices que j'ai commises par rapport à ma mère.
Et que vous corrigez un petit peu là.
Oui, je corrige, mais j'ai eu besoin non pas de... Enfin, j'ai eu besoin de lui redonner les dimensions j'avais un petit peu occulté. Et pour ça, il fallait un déclic. Et ce déclic, je l'ai eu un jour au volant.
Ça, c'est génial chez les écrivains, hein, parce qu'il y a toujours des scènes très romanesques chez vous. Au volant, qu'est-ce
qui
se passe ?
Oui, en conduisant sa voiture, je n'avais pas fait le changement de carte grise. Et flash de radar, et puis une contravention arrive à son nom. Et elle perd 2 points. Et puis après, récidive. Et j'en viens à me dire, d'abord, c'est un roman, ça naît d'une phrase. Enfin, pour moi, j'ai toujours besoin de la phrase diapason. Et là, je me dis, elle n'a jamais aussi mal conduit que depuis qu'elle est morte. Et puis deuxième chose, je me dis, mais si j'avais le continue, puisque l'administration la croit encore vivante, si elle continue à perdre tous ses points, un jour, elle va recevoir une convocation, un stage de récupération de points. Donc, je fais quoi ? J'engage une sosie et là, le roman est parti.
Ça y est.
À partir de ça. Et donc, à partir de cet enjeu dérisoire et en même temps, qui permet de donner des rallonges administratives et donc une autre forme de vie à cette mère. Et c'est là que surgit Lucie Castagnol, une bouillonnante comédienne à la retraite qui fait des spectacles de stand-up dans sa maison de retraite et qui a connu la mère et qui un jour sonne à la porte et elle s'est habillée comme la mère. Elle porte la coiffure de la mère. En fait, elle a récupéré la perruque qu'avait fabriqué sa mère lorsque la chimio, son cancer allait faire tomber ses cheveux. Elle a fait couper ses cheveux. Elle a fait une perruque. Elle a fait faire une perruque avec ses vrais cheveux qu'a récupéré cette femme. Et cette femme parle comme elle et tout à coup, elle propose cette usurpation d'identité parce qu'elle a entendu une histoire. Mais d'abord, il dit non et puis, elle va réussir à le retourner, à le faire aller jusqu'au bout de son idée et bien plus loin.
Ouais, et voilà, en tout cas, ce que cette comédienne en retraite vous propose en effet, être votre maman le temps de ce stage de récupération de points. Place à Lucie, après la mort de Simone. Et voici cet échange entre cette mère de substitution, cette mère sosie, et le fils. « Arrête-moi si j'en fais trop. Non, non, c'est même un peu en dessous, dit-il. » Je suis flatté et toi, raconte ton prochain livre, quel est le sujet? Quand mes amis me demandent, je suis un foutu de leur répondre. Franchement, j'ai l'air de quoi? On s'y croyait. Elle avait parfaitement capté la teneur de nos rapports, nos dissensions, les piques à fleurs émouchetées par desquelles son amour s'exprimait, ce mélange de fierté maternelle et de constats sans trêve de l'ingratitude filiale qui m'avait tant pesé. C'est moi l'héroïne cette fois, j'espère. Je n'en suis qu'aux prémices, dit-il. Et puis, c'est romancé. Ah bon? Tu trouves que je ne suffis pas à moi-même? Là, on est dans quelque chose, en effet, qui confine parfois au malsain, mais qui est en même temps très fort, très émouvant, car l'usurpation de l'identité, vous le rappelez, c'est évidemment puni par la loi, c'est terrible, et en même temps, ça provoque cette situation romanesque très forte.
C'est puni par la loi, mais c'est un cadeau extraordinaire que la vie va faire à ce narrateur. Et puis c'est une comédienne, et les comédiennes vont chercher la vérité du personnage dans le moindre détail, dans le costume, dans le décor. C'est pour ça qu'elle s'incruste petit à petit en se disant « j'ai besoin de me nourrir du décor pour faire vrai ». Parce que son professionnalisme est exacerbé, il veut absolument qu'on y croit. Mais, et quand il lui rappelle, mais c'est juste faire un stage de récupération de points.
T'as pas besoin d'être caméléon.
Mais si moi je sais que ce que je dis n'est pas juste, je n'y croirais pas, donc je ne serais pas crédible. Mmh. Donc cette logique de la comédienne va l'amener à retrouver la vérité de ce personnage. Et là, le dialogue que vous avez lu, évidemment, est totalement à la fois déstabilisant et il reconstruit pour le narrateur ses rapports avec sa mère. Et il a par moments l'impression de qu'elle est réincarnée, cette forme-là. Ce qui va lui permettre de la comprendre, de voir son vrai visage et de lui dire des choses qu'il n'a jamais osé lui dire aussi.
Alors, bon, on est près de votre vie, évidemment, c'est du roman, mais vous croyez-vous en ces choses de la vie, en des formes de réincarnation ou d'âme insufflée ailleurs, quelque part?
Passe par différents degrés, différents biais. Là, c'est un biais tout simple, c'est l'incarnation par une comédienne qui est s'est tellement investi dans le personnage, a appris tellement de choses, a voulu se mettre en situation.
C'est le rôle de sa vie, manifestement.
Oui, et comme elle dit, c'est mon ultime création. Comme il est à la retraite, que plus personne n'engage, qui a joué Phèdre à Beyrouth pendant la guerre au Liban, qui a fini les saluts sous les obus, tout ça. Donc quand il lui dit, vous risquez quand même, écoutez-moi, le bénéfice risque, je sais ce que c'est. Oui. Donc toute cette impétuosité, cette nécessité de donner ses dernières énergies dans ce rôle vont faire quelque chose d'explosif. Et en même temps, cette femme qui n'a pas eu d'enfant, première fois que la vie lui apporte un rôle de mère, et en même temps de mère réparatrice, puisqu'elle va lui permettre de réparer les choses.
Absolument.
Et il va découvrir, voilà, quelques secrets qu'on va pas dévoiler, mais notamment dans les rapports entre sa mère et sa femme, entre les détentions qui existent souvent dans les familles. Mais le secret de leur rapport est quelque chose qu'il n'avait absolument pas compris. C'est grâce à la présence de cette femme dans le rôle de sa mère qu'il va pouvoir le découvrir. Donc là, on n'est pas dans quelque chose de surnaturel, on est dans quelque chose d'à la fois d'hyper réaliste et qui va au-delà des limites que la vie et le quotidien nous dressent entre nos élans et les gens qu'on aime, l'incompréhension, les malentendus, les non-dits, tout ça va voler en éclats.
C'est un très beau roman parce qu'il est à la fois fantaisiste et extrêmement poignant. Et puis on n'a pas parlé du rôle du troisième femme, c'est la belle-fille, hein, celle sur laquelle l'empreinte de la mère, qu'elle soit Simone ou qu'elle soit Lucie, va peser aussi. Donc c'est un quatuor très très intéressant à observer.
Cette jeune femme qui a créé son entreprise à partir de rien, mais qui est menacée de tous côtés, elle a vraiment d'autres choses à faire que de devoir gérer
le sosie.
Elle dit, je me suis déjà dû me cogner l'original, je vais pas me cogner la doublure. Et voilà, c'est une tension supplémentaire entre eux, mais il faut ce genre de tension pour que les situations un peu fermées puissent se rouvrir.
Manifestement, et vraiment, on en sort très grandi de cette lecture dans laquelle j'ai lu que France Bleu était à l'honneur par deux fois. Cher Didier Van Kovelaert, France Bleu Azur en particulier, puisque je vous rappelle que cette intrigue... Enfin, vous ne le citez pas, mais on est sur les Ternissoises.
Oui, mais puis il y a une équipe formidable à France Bleu Azur. Voilà, les journalistes littéraires là-bas sont d'une grande qualité. Je tiens à les saluer parce que il y a à Nice un des plus grands salons du livre de France et
au mois de juin
et la couverture début juin et la couverture en fait France Bleu est toujours assez remarquable. Ils arrivent vraiment à, c'est pas même s'ils reçoivent un auteur toutes les 5 minutes, à chaque fois c'est ultra préparé, c'est bien, vous savez, ça fait tellement plaisir les gens qui sont passionnés par la lecture, qui savent en même temps mettre un auteur à l'aise, l'aider aller au-delà de la prestation promotionnelle pour ouvrir son cœur. Et là, quand c'est dans ces périodes bourrées de monde et tout, c'est vraiment bien. Donc, bravo à l'équipe France
Bleu. Ça vous fait plaisir. Et nous, ça nous fait très plaisir d'être cité aussi dans ces pages. Didier Van Cauwelaert, une vraie mère ou presque, en particulier car ce héros, ce narrateur, doit rejoindre une journaliste pour une interview au jardin Albert Ier. Donc là, j'engage nos auditeurs de France Bleu Azur à fermer les yeux. Ils y sont, au jardin Albert Ier, et nous, on est à Nice, très clairement. Car c'est aussi un roman, Didier Van Cauwelaert, très ancré dans ce panorama niçois qui fut votre enfance et qui ajoute aux couleurs, à la fantaisie du personnage de Lucie avec ses voitures de course, ses voitures tout court, justement. Mmh. On est dans ce chemin très particulier que procurent ces sentiers niçois.
Oui, c'est vrai que c'est un privilège de grandir à Nice, qui n'est pas une ville de privilégiés, qui est une ville très dure aussi, d'une très grande mixité ethnique et où l'harmonie généralement l'emporte sur les frictions, mais pas toujours. Et puis il y a cette légende de la Faconde méridionale qui serait superficielle, qui serait, alors que le vrai Niçois, il est plutôt froid, le vrai Niçois. Il faut gagner son cœur. les gens du Nord sont beaucoup plus, je dirais, chaleureux au premier degré. Là, il faut mériter l'amitié des Niçois. Mais derrière cette Faconde, derrière cet accent et tout ça, il y a une grande sincérité souvent aussi.
Le jardin Albert Ier, les serres de Nice aussi, c'est cette nature dans laquelle vous a plongé votre maman en partie, qui était horticultrice, et qui vous a donné, j'imagine, ce goût aussi de la flore avant peut-être celui de la faune.
Ah oui, mais je suis vraiment né dans une serre. Hein. C'est vrai que les premières images, les premières empreintes, c'est cette odeur de terre surchauffée, des parfums capiteux, des plantes, ces messages à la fois tactiles, visuels, olfactifs, et c'était très très important ça.
Ouais, c'est important qu'on l'entende et qu'on la respire aussi, votre maman, à travers ses...
Et en même temps, un jour, ma mère qui gérait cette entreprise horticole, un jour, elle a perdu cette entreprise à cause d'un associé qui avait fait des malversations. Il y a eu une liquidation judiciaire et du coup, elle n'a plus que ses fourneaux pour briller, pour régner sur le monde. C'est là qu'elle était déjà une cuisinière formidable. Et là, c'est devenu vraiment quelque chose d'absolument important pour elle. Mais ce que je viens de vous dire, je l'ai vraiment réalisé qu'en écrivant le roman. C'est là où les romans nous aident, parce que on sort de la fidélité à l'exactitude des faits et la fidélité aussi aux œillères, à ce qu'on n'a pas voulu voir ou quand on regardait ailleurs. Là, on regarde
et tout. Et en écrivant, vous avez vu votre maman évoluer.
Et là, j'ai compris pourquoi cet égo démesuré justifiait en même temps. Je pensais être l'une des meilleures cuisinières du monde. C'est vrai qu'elle était très très forte, mais parce que ça lui permettait de faire plaisir. Elle avait toujours 10 personnes, et puis elle allait nourrir ses amis qui étaient malades, elle avait porté les plats dans les hôpitaux. Il y avait un besoin de rayonner avec sa cuisine partout. Et là, j'ai vraiment compris d'où ça venait.
Eh bien, lors du déjeuner, vous parlez justement gastronomie. On va pousser la porte d'un restaurant que vous aimez beaucoup, je crois, La Cardo. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Au cœur du centre-ville niçois, du vieux Nice. Une maison familiale depuis 3 générations. C'est Virginie Accardo qui nous y attend. Bonjour Virginie.
Bonjour tous les deux.
Bonjour.
Eh bien, merci de nous rejoindre dans cette émission, dans ce partage niçois avec Didier Van Cauwelaert. Accardo, c'est votre nom pour enseigne. Est-ce qu'il y a une signification particulière, Virginie?
Eh ben, c'est notre nom de famille. On s'appelle Accardo.
Voilà, c'est ça. Et depuis 3 générations, vous gérez cet établissement qui revisite la gastronomie italienne, mais pas seulement.
Pas du tout. Alors en fait, on est vraiment ancré dans la gastronomie niçoise.
Très bien.
C'est très riche, on a cette chance-là. Et on a une gastronomie qui est formidable. Et je m'emploie avec soin de refaire les recettes de mon arrière-grand-mère. Voilà, que papa m'a apprise. Et voilà, donc on est là. Je suis la 4e génération.
Formidable.
Dans le restaurant, j'ai repris les fourneaux de papa il y a quelques années et je suis là avec mes deux frères.
Alors donnez-nous les deux de vos recettes de cœur ou peut-être même le plat du jour là que vous venez de servir à vos clients.
Alors là aujourd'hui, le plat du jour, c'est la maminia de bœuf. Mamia de bœuf, donc on l'a servi en tagliate avec des pommes Anna, pommes de terre Anna. Je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose.
Non.
Ça n'a rien de niçois, là c'est vraiment la bonne gastronomie française.
D'accord.
En revanche, notre carte, c'est de la cuisine niçoise, mmh. c'est-à-dire de la daube avec les merdas des camps, les panisse, la troucha, les raviolis, la pissaladière, tout ça, la tourte de blé.
Les petits farcis, vous les faites aussi? Parce qu'ils sont très présents dans le livre de Didier Van Keulen.
Oui, absolument. Oui. Les petits farcis, on en a encore refait ce matin, tous les jours.
Oui.
Tous les jours, on les fait, tout est frais du jour. Donc,
c'est la base.
J'ai une sœur qui me livre tous les matins.
Très bien.
Tout est frais du jour et tous les jours, on refait tout ça.
Qu'est-ce que vous aimez déguster, vous, Didier Van Keulen, à la Chiardo?
Oui, bah,
vous connaissez
par exemple,
bien.
Ma mère qui était niçoise, donc d'origine italienne. Et c'est vrai que la cuisine niçoise n'a rien à voir avec la cuisine italienne, même si elle a énormément digéré les influences. Mais il y a cette influence très importante de la montagne dans la cuisine niçoise. C'est vrai que...
Absolument.
Et ça, très peu de gens le connaissent. Mais notamment les petits farcis chez Accardo, voilà, ma mère qui allait toujours vérifier, comparer, hein, c'était vraiment d'une dureté par rapport à ce qu'elle appelait la cuisine du restaurant, et là, ça va, ça. Elle était pour. Ça faisait partie
c'est
des
vrai.
Adresses.
Ah, pas mal.
Elle n'était pas en colère. Parce qu'elle sortait souvent en colère des restaurants. Par exemple, le pire pour elle, c'était qu'on mette du riz dans les farcis. Mm. Ça, les grains de riz, ça, c'est.
À la méthode tomate farcie. Ouais, ça, c'était trop
peu,
francisé.
Oui. Et ça, parce que ça absorbe l'humidité, mais non, ça, c'est.
La ratatouille.
Voilà, c'était comme. Oui, ou bien de faire la ratatouille qu'elle appelait la ragounia, c'est-à-dire quand on cuit tout en même temps, quoi. Non, elle cuisait séparément.
C'est ça.
Et puis,
ça demande plus
la
de tourte temps.
De blettes au pignon, tout ça, ça sont des plats emblématiques. Et puis, ce qui était sa grande réussite, parce que ça, c'est vraiment, ça se fait minute et c'est dur au restaurant de l'avoir aussi bien qu'elle le faisait elle, c'était les beignets de fleurs de courge.
Ah oui, ça c'est magnifique. Ça, vous les faites aussi, Virginia Cardo, à la Cardo, les beignets de fleurs de courge?
Plat du jour, parce que c'est des produits qui doivent être travaillés de suite et qui doivent être cuits une minute.
Oui.
Pour pas que ça baigne et que ce soit gras. Mm. Donc là, pour le moment, notre cuisine n'est pas encore suffisamment grande pour pouvoir faire les beignets de fleurs de courgette vraiment parfaitement. Alors plutôt, je préfère ne pas les faire pour le moment. Et quand on va faire les travaux, parce que bientôt on va faire des travaux pour agrandir notre cuisine, là, j'aurai tout le matériel adéquat, j'aurai vraiment plus de place. Et là, je ferai les beignets de fleurs de courgette.
J'irai les goûter chez vous, j'irai comparer avec la mémoire maternelle.
Ah, ça, c'est quelque chose. Hein. Didier Van Keulen, chez vous, à la Cardo, 38 rue droite, dans le vieux Nice. Merci
Absolument.
Beaucoup. Merci, Virginie. Virginie Accardo.
Merci beaucoup.
Voilà, entre deux services, à 13h49 sur votre France Bleu. Nice, qui est une ville, vous le disiez, de mixité, une ville de partage pluriculturel, nourrie d'influences étrangères, avec une grande communauté russe. Je vous en parle parce que l'accueil ukrainien fut assez fabuleux et cette communauté russe a ouvert aussi grand les bras. Les Alpes-Maritimes, terre d'asile avec Nice, l'une des trois principales villes d'arrivée des réfugiés ukrainiens en France. Il y a une très belle mobilisation grâce aussi à l'antenne de France Bleu Azur qui a appelé à la générosité des auditeurs pour donner des lits, des meubles ou un peu de temps pour permettre à ces réfugiés de s'installer dans de meilleures conditions. Reportage de Kevin Blondel.
Lorsqu'elles ont quitté leur maison avec leur chat sous le bras, elles entendaient les bombardements à longueur de journée. La maman Victoria nous fait écouter sur son téléphone. Et changement radical, ici au cœur de Nice, petite chambre donnant sur un jardin magnifique. Et quand on ouvre la fenêtre... Pour qu'elle s'installe, il a fallu beaucoup de générosité. Un appel aux dons lancé par Habitat Humanisme sur France Bleu Azur, notamment pour récupérer de quoi installer ses familles. Et puis le travail de Lionel, salarié de l'association, et de plusieurs bénévoles pendant plus de 15 jours.
Le table de nuit, les lits, il y en a que c'est des dons, il y en a que je suis allé chercher un peu à droite à gauche des frigos, des tables, de la vaisselle aussi en dons. Ils en ont besoin, c'est normal qu'on soit là.
De quoi se poser un peu après le traumatisme là-bas et le parcours du combattant en France. 3 semaines d'aller-retour entre Toulon et Marseille à se débattre avec l'administration. Aujourd'hui, la plus grande des filles, Anna, est soulagée et reconnaissante.
C'est incroyable. Je veux vraiment que les gens sachent que nous sommes tellement reconnaissantes. Je veux remercier tous ces gens. Personne ne nous a aidés avant. Personne.
Dans quelques semaines ou quelques mois viendra le temps du retour en Ukraine pour la petite famille, espère Victoria. La maman veut retrouver son poste de maîtresse d'école au plus vite.
Didier Van Keulen, vous qui êtes notre grand témoin, vous avez assisté à certaines de ces manifestations en faveur des réfugiés ukrainiens avec les Ukrainiens eux-mêmes à Nice.
Mais même avant ces épisodes douloureux qu'on vit en ce moment, il y a une communauté russe très importante que vous citiez, et déjà une communauté ukrainienne et une communauté tchétchène. Et ça, par exemple, dans les collèges, vous savez, à Nice, il existe une entreprise culturelle qui s'appelle Lecture pour tous, où les auteurs vont dans les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les hôpitaux, les prisons, et j'aimerais montrer qu'un auteur, c'est aussi quelqu'un de vivant, quelqu'un de normal, qui vient raconter des histoires, qui a dû se bagarrer contre la réalité pour imposer tout ça. Et j'ai un souvenir dans un collège à Nice, où tout à coup, l'enseignant me disait, je pense que c'est une classe un peu difficile. Il y a eu des incidents il n'y a pas longtemps, et c'est une classe composée en majorité de Russes, d'Ukrainiens et de Tchétchènes.
Ah oui, c'est quelque chose.
Et là, elle a ouvert la porte et je suis entré, elle a refermé derrière moi. Je me suis retrouvé seul dans l'arène et c'est vrai que c'était assez tendu. Presque immédiatement, le fait simplement, de montrer tel que je suis, de raconter, quelle est la différence entre un écrivain et un footballeur, par exemple. C'est un gamin qui a un rêve, c'est un gamin qui va travailler énormément ce rêve, qui va se nourrir. Donc à partir de là, vous créez un lien, vous racontez les histoires, vous leur demandez à eux qu'est-ce qu'ils attendent de la vie, du rêve. Et, tout.
Ouais.
Et là, à ce moment-là, vraiment, j'oublierai jamais cette expérience et j'y repensais beaucoup depuis le conflit. Quand je suis reparti, et c'était pas juste grâce à moi, ils étaient copains, les Russes, les Tchétchènes, les Ukrainiens, parce qu'ils s'étaient découverts dans des choses qu'ils n'avaient jamais dites sur leurs passions, leurs intérêts, leurs rêves, ce qui les faisait marrer, ce qui les faisait peur.
Et ce qu'ils avaient en commun.
Et voilà un lien. Et parfois, quand on part trop de l'idée de la différence entre les gens, de leur incompréhension, on va accentuer ça. Si on parle zéro en proposant autre chose, on laisse venir les gens.
Voilà, belle anecdote, Didier Van Kovelaar, qu'on peut partager aussi avec Ludmila qui nous rejoint. Ludmila qui est photographe, qui est arrivée il y a quelques années en France. Vous avez 42 ans. Bonjour Ludmila.
Bonjour.
Et vous exposez aujourd'hui des photos évidemment très très fortes d'humanité et de sens dans le parc Phoenix de Nice, que connaît bien Didier Van Kovelaar, que connaissent nos auditeurs.
Superbe jardin botanique.
De quoi témoignent ces photos, chère Ludmila?
Alors c'est un reportage, on peut dire. Cette idée était de faire photo de tout bénévole, de Niçois, de la ville, de Ukrainiennes qui habitent ici depuis longtemps, pour montrer solidarité pour Ukraine, l'aide qu'on donne et le support qu'on donne pour les Ukrainiennes qui arrivent ici. Mais aussi, je fais photo les clichés de réfugiés qui arrivent sur Nice et j'ai raconté quelques histoires très émouvantes sur leur parcours.
Des réfugiés de Mariupol, de Boutcha, des autres régions avec
des... Oui, c'est vraiment les réfugiés de villes qui étaient vraiment touchés par les occupants russes et qui survivent les choses très graves et très, très dures.
Oui,
voilà.
C'est jusqu'au...
On a pleuré ensemble,
j'imagine.
On a pleuré ensemble, et voilà.
Et c'est jusqu'au 15 mai, cette exposition photo, Ludmila, que vous orchestrez pour donner encore à voir justement à la fois cette détresse, mais cette solidarité dans ce parc Phoenix. Didier Van Kovelaar, vous aurez le temps d'aller jeter un œil averti.
Oui, et puis c'est beau quand ce jardin si beau, c'est serres, des serres géantes, et de voir en même temps l'humanité dans ce qu'elle a de plus douloureux et de plus merveilleux, quand l'harmonie se recrée, c'est beau que cette exposition soit dans ce lieu.
Merci beaucoup Ludmila. On aurait à voir votre exposition au parc Phoenix, photoreportage sur à la fois ces bénévoles, ces Niçois et puis ces réfugiés ukrainiens. Je rappelle que Nice est donc l'une des trois métropoles qui accueille aujourd'hui le plus de réfugiés ukrainiens. Nous sommes avec le Niçois de l'étape, mais tellement plus que cela, Didier Van Kovelaar, évidemment, votre talent dans Une vraie mère ou presque, votre dernier roman que j'ai adoré, parce que vous racontiez cette distance romanesque, évidemment, pour raconter votre maman, mais qui évoque tant de choses avec ce sosie fou, fantasque, et ce destin que je laisse découvrir au lecteur. Merci Didier Van Kovelaar.